Le micro a doublement le caractère d'une écriture. Il a le caractère d'une écriture littéraire. Il est aussi celui qui écrit l'histoire, pour prendre le titre d'une émission.
L'éloquence ou le discours, toujours.
Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français.
À l'époque où il n'y avait dans la campagne présidentielle de débat qu'entre les deux tours, François Hollande avait eu le temps de développer une longue amplification que les commentateurs les plus avertis présentèrent le lendemain comme une anaphore. À la façon de Corneille, vous savez, mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. L'étonnement passé, on se demanda si les codes de la rhétorique du grand siècle ne pouvaient pas encore avoir une utilité. Le pouvoir passant par les circuits du langage, Athènes et Rome ont posé les phares et les balises, qui tiennent toujours. Les leçons de Cicéron ont ensuite été reprises par la contre-réforme catholique dans son éloquence sacrée. Le processus judiciaire les a disséminées, la vie parlementaire les a démocratisées. Ne faut-il pas les retrouver ? La rhétorique est bien davantage que la définition de forme à quoi accrocher le discours. Elle définit dans une argumentation des parties bien distinctes. Ainsi, à cet instant, nous n'en sommes qu'à l'exorde de l'émission. Le père Bourdaloue, grand prédicateur du XVIIe siècle, pouvait à lui seul parler plus longuement que 5 candidats à la présidentielle d'aujourd'hui. Les dames qui venaient l'écouter s'étaient d'ailleurs fait fabriquer de petits pots de chambre adaptés qu'elles dissimulaient sous leurs robes et qu'elles utilisaient si le besoin s'en faisait sentir sans quitter l'orateur des yeux. On les appela les Bourdaloues. L'éloquence saisit en effet le corps en même temps qu'elle convainc, mais cela ne suffit pas. Bourdaloue se targuait de rendre sensibles les marbres et même les rochers et de les tourner du côté où il voulait. Pour aboutir au cœur de l'autre, la parole doit partir du sien propre. Ce pourrait être une première péroraison provisoire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Car la parole maintenant va être à Maître Bertrand Perrier. Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous présenter comme un logographe. Non, vous refusez.
Ah non, je ne suis pas logographe.
Qu'est-ce que c'est un logographe ?
Un logographe, c'est quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre. C'était dans la Grèce antique où les accusés devaient se défendre par eux-mêmes et comme ils n'étaient pas capables de le faire, ils achetaient auprès de professionnels des discours qu'ils récitaient. Mais moi, je ne suis pas logographe. J'écris des choses pour les dire moi-même et je n'ai jamais écrit de discours pour quelqu'un d'autre.
Ce que vous faites dans votre métier d'avocat au Conseil d'État maintenant et à la Cour de cassation, oui. Mais on disait que les grands logographes de l'Antiquité, on va citer des noms inhabituels aujourd'hui, Lysias, Hypéride, etc., ils avaient formé des orateurs. Et ça, vous le faites. Vous êtes
oui.
Un formateur d'orateurs.
Je forme des orateurs, notamment à Sciences Po, à HEC ou en Seine-Saint-Denis dans le cadre du programme Eloquentia, mais je les forme plutôt à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je n'essaye pas de plaquer sur eux des choses que je voudrais dire moi.
Alors c'est actuellement le concours d'Eloquentia à l'Université Paris 8, dont vous êtes un des animateurs, scripta, manent, verba, volante. Oui, il y a toujours beaucoup de latin dans la rhétorique et c'est normal parce que c'est pendant l'Antiquité, à des périodes d'ailleurs souvent politiquement difficiles, que la rhétorique s'est constituée.
Oui, mais il y a une logique à cela, c'est-à-dire que la parole a évidemment partie liée avec le pouvoir et c'est dans les moments où le pouvoir est particulièrement en jeu que l'éloquence politique en tout cas se manifeste de façon assez paroxystique.
Cicéron.
Bien
fin
sûr,
de la République, menace de la guerre civile.
Voilà, donc là, il y a les menaces sur notamment les fameuses catilinaires hein, qui prennent pied dans une menace sur la pérennité du pouvoir romain et qui donnent à Cicéron l'occasion de beaux morceaux d'éloquence. On aura aussi les philippiques. Donc ce sont dans des périodes effectivement souvent troublées que se manifeste l'éloquence politique.
16e siècle, la période est troublée aussi et c'est un grand moment de controverses, on a oublié ces fameuses réunions où les protestants et les catholiques étaient invités à s'affronter les uns les autres.
Oui, ça n'est pas tout à fait le même genre d'éloquence, puisqu'il y a dans cette période, alors politiquement assez stable, pas véritablement de parole politique ou de débat politique, mais le débat est dans l'éloquence de la chair, dans l'éloquence religieuse. Et puis, par ailleurs, il est dans les débats de salon, qui est l'éloquence d'apparat, qui est l'éloquence que l'on se réserve lorsqu'on n'a rien d'autre à faire et que les débats politiques sont clos.
Et puis, il est aussi maître dans l'éloquence des magistrats. Alors justement, on va commencer, après les grandes controverses du XVIe, dans l'époque de la romanité triomphante. On a dit d'ailleurs que la romanité, je parle du Saint-Siège, reprenait un certain nombre de techniques de Cicéron dans l'éloquence sacrée. On ne pouvait pas ne pas entendre assez vite Bossuet, un sermon de carême, j'imagine, cette saison.
Quand un homme se laisse emporter par l'ambition, il pêche. Mais il pêche en ange, parce que l'ambition est un péché spirituel. Quand il succombe à l'avarice, il pêche. Mais il pêche en homme, parce que l'avarice est un dérèglement de la convoitise qui n'appartient qu'à l'homme. Quand il s'abandonne au désordre de la chair, il pêche. Et il pêche en bête. Parce qu'il suit les mouvements infâmes d'une passion qui lui est commune avec les bêtes. Le péché d'impureté est la source de tous les désordres qui naissent dans le monde. Il ne faut que deux créatures pour remplir une ville de querelles et de jalousies, de perfidies, de calomnies, de haines, de meurtres, de scandales et de péchés.
Daniel Mesguich dans le rôle de Bossuet en chair dans le film L'Allée du Roi de Nina Companese. Vous avez quand même une journée assez étrange, Bertrand Perrier, parce que vous avez commencé à 8h au lycée Blanqui à Saint-Ouen. Vous avez entendu de jeunes orateurs parler des femmes et du djihadisme, de la CPI est-elle anti-noire et trop blanche. Et puis vous avez à vous prononcer sur les méthodes de Bossuet telles qu'elles étaient au XVIIe siècle. Il ne s'agit pas de l'apprécier comme un membre de jury, bien sûr.
Non, alors c'est effectivement une journée un peu étonnante, parce que j'ai commencé en effet au lycée Blanqui en Seine-Saint-Denis pour l'examen des étudiants qui souhaitent entrer à Sciences Po. Et puis là, je me retrouve propulsé un petit peu au XVIIe siècle dans Bossuet. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, on voit bien cette éloquence religieuse qui est une des grandes tendances de l'éloquence. Bourdaloue, bien sûr, Fénelon et tant d'autres, et on voit bien que là on avait une vraie éloquence qui vitupère, qui dit le péché, qui tonne, ce qui est, c'est un peu perdu aujourd'hui.
Oui, mais il n'y a pas que la vitupération, il y a l'argumentation.
Ah bien sûr.
La rhétorique est héritée de l'Antiquité, elle définit dans un discours l'exorde, la narration, la division, c'est-à-dire l'examen de la thèse qu'on veut soutenir, la confirmation de la thèse qu'on veut soutenir.
Et la réfutation,
la réfutation. Et ne viendra après que la péroraison, ce qui est d'ailleurs très difficile maintenant à obtenir, cette construction d'une argumentation.
Oui, bien sûr. Quoique la narration retrouve dans le storytelling aujourd'hui une sorte de reviviscence, mais on voit qu'en effet, tous les ressorts de l'éloquence classique qui avaient été théorisés dans la Grèce antique sont mis à profit par Bossuet, ce sermon de carême, mais aussi Henriette d'Angleterre, Madame Sommer, Madame est morte. C'est une époque d'éloquence religieuse qui, je trouve, se perd un peu. On parle aujourd'hui plus de questions politiques générales dans les églises. Et là, on a vraiment la synthèse de l'éloquence religieuse. Et on voit bien que les pêcheurs ont intérêt à bien se tenir.
Mais vous disiez, il y a aussi un autre genre que vous aviez tendance à qualifier de plus vain que saint et qui est... Allez, moi, je vais l'appeler... l'éloge académique. Voilà un éloge de l'asperge, cette saison aussi, oui. Par Fontenelle. Alors Fontenelle, c'est un grand vieillard. C'est un mélange d'élégance de cour et d'élégance de république des lettres.
Cher Fontenelle, nous attendions vous pour souper.
Ah, des asperges.
Je suis résolu à faire à l'Académie une communication sur l'intelligence de l'asperge, qui est un légume particulièrement savoureux, mais aussi commode à manger. En somme, fait pour nous plaire, mais avec une discrétion qui enchante. Il suffit d'ailleurs de savoir comment poussent les asperges, elles passent la tête, pour d'abord voir si elles ne dérangent pas, et puis alors, se sachant attendues, elles viennent, tout entières. Aucun autre légume ne possède cette élégance.
Michel Serrault, dans un film de Philippe Monnier.
Oui, alors là, on est vraiment dans l'éloquence d'apparat qui est un peu tournée sur elle-même. C'est ce qu'on appelle l'éloquence épidictique, hein, c'est-à-dire l'éloquence d'apparat qui n'a d'autre finalité que, vous savez, dans le triptyque de l'art oratoire, hein, plaire, émouvoir, convaincre. Bon, bah là, on est vraiment dans la volonté de plaire et d'éblouir par la beauté d'un propos complètement vain.
Oui. Dites-moi, vous organisez les concours Eloquentia à Paris 8, mais vous avez aussi été de la conférence du stage.
Oui,
vous étiez le quatrième secrétaire de la conférence du stage. Qu'est-ce que c'est la conférence du stage?
La conférence, c'est un concours d'éloquence pour les jeunes avocats qui a lieu chaque année et qui distingue 12 jeunes avocats qui se verront confier les affaires criminelles les plus délicates de l'année qui vient.
Et le quatrième secrétaire s'occupe de l'organisation de la conférence Berryer, du nom d'un grand parlementaire du 19e siècle. À la conférence Berryer, peut-être même à la conférence du stage, vous proposez souvent des sujets futiles, vous aussi, comme l'éloge de l'asperge.
Ah mais absolument, je me souviens que ma promotion a donné « Les voitures rouges sont-elles plus rapides ?» Peut-être également « Faut-il réconcilier les œufs brouillés ?» Enfin, effectivement, des sujets qui, en apparence, n'ont aucun sens, mais qui peuvent aussi être un prétexte, justement, à s'exercer à l'art de l'argumentation, fût-ce sur rien, art de l'argumentation qui est précisément celui de l'avocat.
Donc avec l'exorde.
Bien sûr.
Et ensuite rappeler les catégories qu'il faut suivre.
Et peut-être donc l'exorde, c'est-à-dire la captation de la bienveillance, ensuite la narration, c'est-à-dire pourquoi est-on là, quelle est l'histoire qui nous amène devant un juge, ensuite l'argumentation, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai raison.
Les voitures rouges sont plus rapides.
Voilà, et puis ensuite la réfutation, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'adversaire, lui, a tort, et ensuite la péroraison qui fait appel une dernière fois au passé de l'auditoire pour emporter la conviction.
La plaidoirie judiciaire, l'éloquence des magistrats aussi, en parallèle, c'est par là que s'est maintenue la rhétorique qui ne pouvait plus s'exercer dans la vie politique qui n'était plus libre. Et là, ce sont des sujets graves qui sont traités avec, parce qu'il y a toujours trois parties pour qui fait de la rhétorique, l'interlocuteur auquel on s'oppose, soi-même, et l'interlocuteur auquel on s'adresse, le juge, par définition, son jugement n'est pas tranché.
Oui, absolument. En réalité, le destinataire de la parole, c'est le juge. L'adversaire est un point d'appui. C'est en fonction de ce qu'il dit que je vais, moi, argumenter.
Maître Garçon a consacré une partie de l'occupation à écrire un livre sur l'éloquence judiciaire, que vous avez sans doute
Je l'ai. Je l'ai dans ma bibliothèque grâce au bâtonnier Pierre-Olivier Sûr qui me l'a offert.
Et il a aussi défendu le plus possible les victimes du régime de Vichy. Le jeune Gautier de Poitiers, bon, était quelqu'un qui n'aimait pas Vichy, mais qui avait eu le tort, outre qu'il avait tué le docteur Guérin, de l'avoir un peu malmené et torturé avant sa disparition. Maître Garçon a plaidé dans des circonstances très difficiles en 1943, c'est une plaidoirie historique, à tel point que, ayant obtenu que son client ne perde pas la tête, il a repris en enregistrement cette plaidoirie quelques années plus tard après la libération.
Les jeunes gens que nous défendons ont un passé sans tache. Ils appartiennent à des familles qui ne leur ont donné que de bons conseils. On n'a eu aucun proche à leur adresser pendant leur courte existence. L'aîné n'a pas 20 ans. Ils étaient encore des enfants lorsque la guerre a éclaté et lorsqu'ils ont assisté dans Poitiers au défilé tragique des Français chassés de leur foyer par l'invasion et fuyant sur les routes. Ils appartiennent à cette génération née dans la fragile sécurité que nous a donnée la victoire et ils ont souffert d'autant plus de l'effondrement du pays, qu'ils étaient orgueilleux d'une patrie dont le génie brillait d'un vif éclat dans le monde. Ils ne méritaient pas l'infortune dont ils souffrent et la supportent mal. Ils ne sied pas à la jeunesse de porter le deuil. Ils sont impatients de voir luire des jours meilleurs. Ils aiment trop leur pays pour n'avoir pas fait de l'espoir un acte de foi, et ils ne peuvent s'habituer à le sentir asservi par une domination étrangère. Autour d'eux, ils ont entendu exprimer des doctrines contradictoires dont quelques-unes leur font horreur. Ils se sont trouvés sans guide et leur conscience tourmentée leur a fait porter sur certains hommes des opinions outrées. L'outrance de leurs avis est le fait de leur âge et de leur désespoir.
Bertrand Perrier.
Oui, ce qui est frappant, plusieurs choses. D'abord la voix qui évidemment signe l'époque. Le côté un peu théâtral, hein, on est vraiment dans une éloquence à l'ancienne. C'est magnifique, c'est somptueux, c'est magnifiquement écrit. Je suis pas sûr qu'on plaiderait encore aujourd'hui comme ça. Aujourd'hui, on est plus dans l'efficacité et moins dans l'emphase, comme les un peu garçons dans cet enregistrement. Et puis il y a le côté un peu étrange qui consiste à rejouer une plaidoirie 10 ans après. Presque comme un acteur, en fait, alors que la plaidoirie, elle naît au moment du jugement, elle naît face à un magistrat, dans l'urgence d'une audience. Et donc là, il y a un côté étonnant de le voir rejouer comme une pièce de théâtre, ce qui, à l'origine, était une vraie plaidoirie avec un enjeu. Donc c'est assez étonnant, cette...
Mais c'est une pièce de théâtre, la plaidoirie. Simplement, les répliques ne sont pas toutes écrites.
Alors,
avant,
les répliques ne peuvent pas être écrites avant, puisqu'elles naissent de l'audience. Et c'est au terme de l'audience et en fonction de son déroulement que la plaidoirie se construit petit à petit. Et puis même pendant le moment de la plaidoirie, on doit pouvoir s'adapter à un froncement de sourcils du juge, au juge qui s'assoupit. Donc on doit pouvoir conserver une faculté d'improvisation. Et là, c'est frappant de voir garçon rejouer. Mais non, c'est pas vraiment un théâtre, une audience, parce que d'abord un théâtre c'est un exercice vain. Une audience, il y a la vie de quelqu'un, il y a l'argent de quelqu'un qui est en jeu, donc ça a vraiment prise avec le monde réel. Le théâtre, c'est un art.
Je reviens à Bourdalou. Izorni avait promis une péroraison extraordinaire à sa plaidoirie. Il était à Bourges, au palais de justice, et il voit un portrait avec quelqu'un d'un peu bouclé, une sorte de perruque. Et il dit « Bourdalou nous regarde ». Et le président lui répond « Non, c'est pas Bourdalou, vous êtes dans le Berry, maître, c'est Georges Sand ». Et alors là, ça l'a désarmé.
Oui, ça, je peux comprendre que voir Georges Sand, je ne sais pas, je suis surpris de voir le portrait de Georges Sand quelque part dans un tribunal, parce qu'elle-même a eu fort affaire avec les juridictions de Bourges, puisque c'est... représentée d'ailleurs par l'avocat Michel de Bourges, qu'elle a obtenu, et qu'en cela elle était très précurseur, son divorce.
Donc l'anecdote est fausse.
Je n'en sais rien, mais en tout cas...
on peut glisser des choses qui sont fausses.
Pardon ?
On peut glisser des choses qui sont fausses. Dire, quand on est un avocat qui a plaidé depuis 3 ans, c'est ma première plaidoirie.
Oui, alors je connais des confrères qui en sont à leur première plaidoirie depuis 4 ou 5 ans. Ça va finir par se savoir.
Ah, l'éloquence, tout comme l'a dit La Rochefoucauld.
Oui, mais pourquoi?
Ben parce que...
Ah bon?
Ah, c'est pourtant clair. Ah, l'éloquence, c'est dire beaucoup de choses en peu de mots.
Oui, mais pourquoi?
Mais parce que...
Ah bon?
Ah ben tu commences à m'énerver, je sais. C'est dire comme disait Mirabeau, Fontaine, je boirai pas au tonneau. C'est dire comme le proverbe arabe, tombé de Caraïbes en syllabes. Ah, l'éloquence, c'est antique, c'est vieux comme mes robes.
Oui, mais pourquoi?
Mais parce que...
Ah bon?
Ah là là, c'est malheureux de causer avec des gens qui sont pas instruits. Ah, l'éloquence inonde toutes les parties du globe, d'où je conclus que l'intelligence vogue sur les flots de l'éloquence.
Ben oui, mais pourquoi?
Mais parce que stultorum infinitus est numerus.
Ah bon?
Mais évidemment.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
avant le débat télévisé de ce soir, l'éloquence avec Bertrand Perrier, c'était Bourvil, dont le fils est député d'ailleurs maintenant.
Oui, c'est Dominique Rimbourg qui est un des grands spécialistes des questions de justice d'ailleurs au Parti Socialiste.
Bourvil citait Mirabeau. Oui, parce que l'éloquence est vieux comme Mérode, mais elle a repris un nouvel élan, un nouveau souffle, quand la vie parlementaire l'a disséminée. Démocratiser.
Bien sûr, ce qui caractérise le monde contemporain, c'est l'extraordinaire diversité et dissémination en effet de la parole politique. Sous l'Ancien Régime, elle était concentrée entre les mains du pouvoir qui la tenait lui-même de Dieu, et donc elle était extrêmement limitée dans sa titularité. Aujourd'hui, tout le monde parle de politique, il y a de plus en plus d'élus, la décentralisation a multiplié le nombre d'élus et de candidats, et donc la parole politique a effectivement fleuri de partout, avec aussi des risques, puisqu'elle est moins contrôlée, et on voit des candidats ou des hommes politiques déraper complètement, ce qui impose en retour un encadrement peut-être juridique de la parole politique.
Mais avant d'en venir à ces extrémités contemporaines, Bourvil citait Mirabeau. De Mirabeau, on disait qu'il était éloquent parce qu'il avait les pieds dans la glèbe et la tête rayonnante. C'est parce qu'il avait un parler populaire, un enracinement populaire. Ça, c'était un déclassé.
Oui, absolument.
Vous parlez de la démocratisation de la rhétorique. Elle commence dès les assemblées révolutionnaires.
Bien sûr, elle est consubstantielle de la démocratie. Et dans son procès contre son épouse, on sait que c'est Mirabeau qui fascine les foules par son éloquence, effectivement, assez terrienne.
Cependant, dans les assemblées de la monarchie constitutionnelle et même dans les premières assemblées de la Troisième République, on avait encore des élèves qui avaient été formés en classe de rhétorique pour une très grande partie d'entre eux, et ça laissait saisie de timidité les élus, plus nombreux qu'aujourd'hui peut-être sous la Troisième République, de classe populaire.
Oui, bien sûr. C'est assez significatif d'ailleurs que les classes s'appelaient à l'époque classes de rhétorique. Aujourd'hui,
ça a été supprimé en 1890. Ça existait jusque-là.
On voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'enseignement de l'oralité est totalement absent, ou totalement, disons, assez déclassé là encore, dans l'enseignement secondaire et même à l'université. La massification fait que on préfère l'écrit parce que c'est plus facile, mais l'oral est très important, bien sûr.
De l'art du théâtre dans l'enseignement.
Bien sûr.
Puisque vous disiez que le théâtre était un art. Un seul exemple d'éloquence parlementaire, Victor Hugo, restitué par Bruno Raffaelli dans une de nos séances du Vieux Colombier, on est en 1871, l'Assemblée est repliée à Bordeaux, les Allemands exigent l'Alsace et la Lorraine, et voilà que Victor Hugo va faire un projet, faire avancer l'histoire beaucoup plus vite que les députés, ses collègues, ne le soupçonnent.
On verra la France se redresser, on la verra ressaisir la Lorraine, ressaisir l'Alsace, et puis, est-ce tout ? Non ! Non, écoutez-moi donc, messieurs, est-ce tout ? Non ! Saisir Trèves, Mayence, Coblence, Cologne, toute la rive gauche du Rhin ! Messieurs, je parlerai, et vous m'entendrez. Et on entendra la France crier « C'est mon tour, Allemagne, me voilà. Suis-je ton ennemi ? Non, je suis ta sœur. Je t'ai tout repris et je te rends tout à une condition. C'est que nous ne ferons plus qu'un seul peuple, qu'une seule république. Je vais démolir mes forteresses. » Tu vas démolir les tiennes. Ma vengeance, c'est la fraternité. Plus de frontières. Le Rhin à tous. Soyons la même République. Soyons les États-Unis d'Europe.
Alors, il y a l'interruption qui survient, sévère, ironique, à laquelle il est souvent difficile de faire face. Et il y a l'interruption ici manipulée par Victor Hugo, qui la prévoyait et qui la retourne.
Oui, c'est évidemment très habile. On voit qu'il manipule totalement son public et il ne se laisse pas du tout emporter. En réalité, il est vraiment dans une pleine conscience de ce qu'il fait. C'est absolument remarquable.
Pour vous, le plus grand orateur contemporain, c'est un peu surprenant, c'est Philippe Séguin. Quand il vient pour parler de la ratification du traité de Maastricht à l'Assemblée, il est voûté sur la tribune. Il commence à annoncer, il est 22h, qu'il va parler pendant 2h, 3h. Les députés sont déjà très fatigués. Et il a une voix très sourde.
Oui, non, mais quand je dis que c'est un immense orateur, c'était d'abord contemporain. On parle de quelque chose qui a 25 ans. Donc déjà, les techniques de communication politique ont extrêmement évolué. On voit aujourd'hui des orateurs beaucoup plus d'estrade et qui ont beaucoup plus de métiers de meeting. Moi, j'ai beaucoup aimé Philippe Séguin parce qu'il y avait une sorte de sobriété, une sorte justement de cette voix sourde et puis une volonté d'être sans concession dans ce qu'il disait. Et j'aimais beaucoup l'orateur qu'il était aussi pour le fond.
Et déplier l'argumentation.
Bien sûr.
Ce qui est plus difficile aujourd'hui, semble-t-il, à vous entendre.
Oui, probablement parce que l'éloquence politique s'est complètement aujourd'hui pliée aux exigences du discours médiatique. Elle doit donc être plus simple, plus brève. Et à l'époque, on avait plus le temps de développer sa pensée qu'on ne l'a aujourd'hui. Donc la langue de bois a gangréné le discours politique.
Et quand vous entendez parler, vous qui organisez le concours Eloquentia à Paris 8, quand vous entendez parler du média training?
Et le média training est aujourd'hui une nécessité puisqu'il n'y a plus de différence entre le discours médiatique et le discours politique. D'ailleurs, les hommes politiques n'ont d'autre ambition que d'être invités dans des émissions de divertissement. Et on voit bien qu'il n'y a plus de rupture. Et donc le média training est évidemment nécessaire. Quand on voit ne serait-ce que les débats d'entre-deux tours, puisque c'est un peu la période dans les années 70 ou 80, ils se tiennent mal, François Mitterrand a ses lunettes sur la table, enfin, on ne ferait plus ça aujourd'hui.
Allez, tenez, une grande éloquence d'autrefois, sans doute un peu creuse, genre tôle, peinte et bouquet qui tourne, le président Lebrun.
Nulle part ailleurs le voyageur ne trouve pour l'accueillir et le retenir cadre plus harmonieux, plus souriant, plus gai, plus attractif. Nulle part il ne voit une rencontre sur sa route cadre plus constamment renouvelé, rivière aux sinuosités plus calmes, sommet plus hardi aux neiges séductrices, plus de plages ensoleillées, aux sables attirants, plus d'auberges si alléchantes par la saveur de leurs mets et de leurs vins, par la fraîcheur de leurs fruits, par la bonne grâce de leur hospitalité. Nulle part ailleurs le voyageur ne trouve, se dressant sur sa route, autant de monuments pour chanter les gloires d'un passé tout riche d'une vie grande et prestigieuse de notre nation.
Voilà, la France n'est plus ce qu'elle était, et l'éloquence est-elle ce qu'elle était? C'était Bertrand Perrier qui était notre invité,